In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et si on renouait aujourd'hui avec la fiction ? Dans un paysage littéraire saturé par l'autobiographie ou pire encore l'autofiction, Thierry Froger, l'invité du jour, fait presque figure de résistant. Heureusement, ils sont encore quelques-uns à tenir haut la flamme du roman. J'entends le roman en tant qu'espace pour la fiction et ça fait un bien immense. Cette forme qui a encore ses lettres de noblesse, semble être devenue un genre, une forme de sous-littérature. La littérature, la vraie, étant en ce moment circonscrite à l'exposition de nos heures et malheurs, de nos petites afflictions, de nos drames familiaux, ou supposait-elle. Et pourtant, que serions-nous sans la carte et le territoire, sans le roi des aulnes, sans un balcon en forêt, sans 100 ans de solitude, sans le tambour, sans la route des Flandres, sans Bartleby, sans attaquer la terre et le soleil. Thierry Froger a publié au printemps dernier chez Actes Sud, Rose à la mer, le 4e volet de ce que l'on peut considérer maintenant comme une tétralogie. Moins de fougue, mais plus de mélancolie, un bonheur de lecture. Bonjour Thierry Froger.
Bonjour.
Le 4e volet de votre tétralogie « Rose à la mer », toujours chez Actes Sud, apparu au printemps dernier. Tout a commencé avec « Sauf qui peut la révolution » en 2016, puis « Les nuits d'Ava » en 2018, et ensuite « Et pourtant ils existent » en 2021. J'ai présenté « Rose à la mer » comme la conclusion d'une tétralogie. Est-ce que ce ne serait pas une tétralogie par inadvertance ?
Quand j'ai commencé ce travail-là avec Sauf qui peut la révolution, qui était mon premier roman, déjà j'avais aucune certitude sur la possibilité qu'il soit publié, et donc j'imaginais vraiment pas de suite. J'ai eu la chance qu'il soit publié chez Actes Sud, et donc j'ai eu l'idée des Nuits d'Ava par la suite, et je sentais dans le projet qu'il me manquait un narrateur. Et c'est là que je me suis rappelé que dans Sauf qui peut la révolution, l'un des personnages, Jacques-Pierre, avait deux passions dans la vie, Danton et Ava Gardner. Et comme Les Nuits d'Ava parle d'Ava Gardner, c'est lui qui a porté en quelque sorte le récit. Et là, dans Les Nuits d'Ava, j'ai glissé quelques petites choses qui allaient donner, et pourtant ils existent. Voilà. Et Rose à la mer, effectivement, là, clôt ce cycle, au moins provisoirement. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, et peut-être que j'y reviendrai. Mais je pense que j'ai fait un peu le tour avec ces personnages-là. Et je ne voulais pas non plus m'enfermer dans un système. Et donc là, je travaille sur un autre projet qui sera un petit peu différent.
Pour présenter Rose à la mer, Rose, c'est la fille de Jacques et Ariane, qu'on a croisés dans les romans précédents et qui sont morts dans Et pourtant ils existent. Rose a 52 ans et s'est mise en tête de projeter les films de Jean Epstein sur un écran de fumée produit par un feu de Goémon. Il y a aussi Florent Talva, 52 ans, le fils de Guy Talva. Florent, il est détective privé à la ramasse. La vocation est venue en regardant Le Faucon Maltais. À ce détective, il est confié une mission de retrouver les bobines perdues d'un film de Marcel Carné, La Fleur de l'âge. Rose et Florent vont se croiser et se rapprocher. Plusieurs liens les unissent, entre autres le cinéma d'un autre temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à cette espèce de résumé ?
Non, c'est très juste. Rose et Florent Talva, ce sont deux solitudes qui se rencontrent, qui se trouvent et qui se perdent. Le roman est quand même se déroule sous le signe de la quête et de l'enquête. et de la perte en même temps, me semble-t-il. Au départ, le projet, c'était vraiment autour des films d'Epstein. Je pourrais en parler. Il y a eu un contexte, en fait, pour l'écriture de ce roman.
Voilà, parlons-en. C'est vraiment important parce que Jean Epstein, ça parle pas forcément à tout le monde aujourd'hui.
Non. ce qui s'est passé, c'est que c'était... je sais plus quelle année c'était. Enfin, c'était après le Covid. Et le gouvernement a lancé un programme qui s'appelait Monde Nouveau. Pour la culture, comme il y avait des programmes dans différents domaines. Et puis mon éditrice m'a appelé, m'a dit ça pourrait être intéressant si tu as envie de proposer un projet. Et donc la contrainte pour Monde Nouveau, c'est qu'il fallait adosser le projet soit à un monument national, soit à un lieu dont est propriétaire le Conservatoire du Littoral. Moi, depuis le début, on le sait, depuis les trois précédents romans, j'ai toujours eu un goût marqué pour les îles. Et donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs îles bretonnes qui étaient qui appartenaient au conservatoire du littoral. Ou du moins, le conservatoire du littoral travaillait dans plusieurs îles bretonnes. Et puis, en faisant des recherches, j'ai découvert que Jean Epstein a tourné plusieurs films dans quatre îles bretonnes. Et je ne connaissais pas du tout ces films d'Epstein. J'ai commandé le coffret qui s'appelle Poèmes bretons. Et j'ai découvert les films qui sont... Je connaissais Epstein, mais pas très bien, en fait. Et dans le premier film qu'il a tourné, en 1929, je crois, qui s'appelle Finis Terrae, la fin de la Terre, il montre quatre goémoniers qui sont sur un îlot au sud d'Ouessant, l'îlot de Banek, et qui, durant l'été, ramassent des goémons, les font sécher, et les font brûler après pour obtenir des pains de soude. Et dans une vie précédente, j'avais plutôt une pratique de plasticien plutôt que d'écrivain, et j'ai beaucoup utilisé la fumée comme écran. Et je projetais des films sur des écrans. Et là, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de renouer un peu avec mon travail plastique précédent et l'écriture, et donc de projeter des films d'Epstein sur des écrans de fumée de goémon, et faire ça l'été dans les quatre îles dans lesquelles Epstein a tourné, c'est-à-dire Ouessant, Belle-Île, Saint et Édic. Voilà. Et donc, c'était un peu le projet. Et donc, l'idée, c'était aussi de projeter sur les fumées des extraits d'Epstein et aussi des textes. Et des textes assez beaux, ça danse comme ça sur les fumées. Et donc, je suis parti dans ce projet. J'étais lauréat donc, de Monde Nouveau pour ce projet. Donc, j'ai pu aller passer pas mal de temps sur ces quatre îles, me renseigner. Et peu à peu, j'ai découvert que mon projet initial était totalement délirant, finalement. Et ce qui est raconté dans le roman, c'est-à-dire le projet de Rose, c'est en fait toutes les mésaventures que j'ai rencontrées au fur et à mesure du travail, c'est-à-dire que le goémon, ça ne se ramasse pas comme ça, il fallait 5 tonnes de goémon, un chalutier, en Bretagne, il ne fait pas toujours beau, il fallait un lieu qui soit à l'écart des habitations, parce que ça sent mauvais, mais qui soit quand même balisé pour des raisons de sécurité. Bref, et à un moment, j'ai revu la responsable littérature de Monde Nouveau, et elle m'a dit, écoute, on laisse tomber, t'as qu'à en faire un roman, simplement un roman. Et voilà, comment ça s'est passé. Et là, j'avoue que j'étais soulagé, quoi.
Je le conçois, parce que comme vous faites vivre à Rose ce que vous venez de nous décrire, donc tous les impossibles d'un tel projet, sans compter le vent qui rabat la fumée, donc il n'y a pas d'image, puisqu'il n'y a pas d'écran.
Il n'y a pas d'écran, il y avait aussi... c'était impossible d'obtenir les droits de Jean Epstein, parce qu'un obscur descendant, petit-neveu, arrière-petite-nièce... ça devenait... Et donc, j'étais très soulagé de pouvoir en faire roman.
N'en faire qu'un roman, mais en faire un roman. Rose et Florent, ils ont 52 ans, tous les deux. Ils n'ont que 52 ans, mais ils ont déjà 52 ans. Et tel que vous nous les racontez, en fait, tout est trop tard pour eux.
Oui, ils sont... Ils ont dépassé un peu le mi-temps de leur existence. Je crois que Florent doit être un peu plus jeune, il doit avoir 5 ou 6 ans de moins, il me semble.
C'est possible. Alors c'est moi qui ai projeté.
Mais effectivement, ils sont tous les deux, ils ont connu des mésaventures personnelles, rien d'extraordinaire, mais ils sont quand même porteurs de pertes aussi. Et ils fuient ce qu'ils ont perdu, mais ils ne savent pas bien ce qu'ils cherchent. Et c'est ces deux solitudes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont leur permettent de nouer quelque chose. Mais rien de flamboyant pour ces deux personnages.
Rien de flamboyant, parce que tout à l'heure, vous dites, l'ordre, la chronologie entre Rose et Florence, c'est ils se sont rencontrés, ils se sont perdus, ils se retrouvent, c'est ça les étapes en fait, même si dans le roman, c'est pas tout à fait comme ça que c'est raconté.
Non, parce que le roman en fait est en trois parties de taille très, très inégale. Il y a une première partie qui s'appelle Elba, qui se passe donc sur l'île d'Elbe.
Alors, une autre île, mais qui n'est pas en Bretagne. Hein.
Qui n'est pas en Bretagne, donc en Méditerranée, qu'on retrouvait déjà dans mon premier roman, Sauf qu'il peut la Révolution. Et là, c'est Rose qui part sur les traces de son adolescence sur l'île d'Elbe, où un été, elle a connu son premier amour. Alors que son père, Jacques-Pierre, enquêtait sur le supposé passage d'un révolutionnaire français, qui est Danton. Là, ça renvoie à mon premier roman.
Oui.
Et elle croit reconnaître, parce que c'est un de ses traits de caractère, elle croit reconnaître son amoureux de l'été 86. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La partie centrale, la plus longue, s'appelle Finisterrae, où là, c'est vraiment la rencontre sur les quatre îles bretonnes de Rose et Florent, et leur errance d'île en île. Et la dernière partie, très courte, s'appelle Calonna. Calonna qui était le nom romain de Chalonne, sur Loire, et où avait commencé le premier roman, Sauf qu'il peut la Révolution. Et donc c'est un souvenir d'enfance de Florent, en juillet 1981. Ça me permettait de clore la boucle, puisque dans tous les romans, même s'il y a des modèles narratifs très, très différents, il y a quand même vraiment ce souci du tressage des temps, et des temps qui se superposent, un peu comme des palimpsestes. Et donc là, il y a trois temporalités aussi différentes, oui.
Même quand vous en parlez, et c'est pour ça que j'ai parlé de tétralogie par inadvertance, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet conçu initialement, ça va faire autant de pages, etc. C'est les hasards du temps, et le dernier hasard, et moi je le trouve merveilleux, c'est-à-dire qu'on part d'un projet plastique et on arrive à un roman. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Mais avec la qualité de Rose à la mer, c'est qu'il s'imbrique complètement, parfaitement, totalement dans la série. Enfin, moi, j'ai retrouvé ces personnages. Enfin, bon, mais on va en parler aussi. Le premier volet, Sauf qui peut la Révolution, s'ouvre sur la maison du bas tiers d'en haut. Le dernier volet se clôt dans la maison du bas tiers d'en haut, sur l'île de Chalonne. Que vous le vouliez ou non, on se désancre jamais de là d'où l'on vient ?
Sans doute. Et puis moi, je pense que mon goût pour les îles vient aussi de mon enfance et ma jeunesse passée à proximité et dans l'île de Chalonne. Et c'est vrai que c'est un lieu qui a été important pour moi. C'est un lieu que je connais. Et donc, il me semble difficile d'écrire sur des choses que je ne connais pas. Enfin, c'est...
Alors que quand on cite ce lieu, le bas tiers d'en haut, on imagine que c'est un lieu de fiction, quoi. Enfin que ça ne peut, un nom comme ça ne peut pas exister.
Eh bien, le lieu dit existe, mais il n'y a pas de maison.
Oui.
En fait, donc quand on regarde sur une carte IGN, on voit le bas tiers d'en haut. Quand on se promène dans l'île de Chalonne, c'est indiqué le bas tiers d'en haut. Il y a des panneaux à deux endroits, je crois. Mais ce sont des champs agricoles. Il n'y a pas de maison.
Alors pour ceux qui sont un peu experts, quand on entre sur l'île de Chalonne, non pas par le bas mais par le haut, on entre et on accède à cette route-là quand on prend la première à gauche. C'est une route qui vire à angle droit, qui est ensuite très droite, qui traverse des champs. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, objectivement, c'est pas du tout, ça fait pas rêver. Mais vous, dans la précédente rencontre qu'on a eue, vous disiez que vous aimiez la toponymie avec ce lieu qui est quasi oxymorique. C'est presque un cadeau de la géographie qui vous est fait.
Tout à fait. Oui. Quand j'ai découvert ce toponyme, le bas tiers d'en haut, tout de suite j'ai trouvé ça assez... Enfin, c'était une promesse de fiction qui m'a tout de suite enthousiasmé. Oui.
Ce livre-là est extrêmement mystérieux. Les trois précédents volumes, alors je ne sors pas de la tétralogie. Hein. Pour moi, ça fait définitivement un bloc, mais donc les
même,
trois...
Même si je me permets de préciser, chaque livre est aussi indépendant. On peut, oui. On peut prendre chacun des quatre livres, on peut les lire dans le désordre, on peut en lire qu'un. J'ai essayé de faire que la méconnaissance des autres n'est pas du tout un souci.
Tout à fait, il n'y a pas de, succession.
Non, ça se passe à des époques différentes, parce que, sauf qu'il peut la révolution, c'est fin des années 80, début des années 90. Les Nuits d'Ava, c'est 5-6 ans après. Et pourtant, ils existent, et sur une plus longue durée, puisque ça va de 1914 à 2018, avec des allers-retours. Et là, ceci se passe en 2022-2023, Rose à la mer.
Mmh. Sachant que, vous dites, Danton, c'est 81, il y a quand même Danton dedans. Hein,
oui, il y a aussi...
Donc, on est quand même... Mais c'est le Danton de 1793.
Oui, de 93,
donc,
oui.
Donc, celui qui survit, en fait. Même, étonnamment, qui survit. Et effectivement... C'est aussi la qualité de ces romans, c'est qu'ils sont indépendants, totalement indépendants. Les trois premiers, moi j'ai eu un plaisir à lire, comme le quatrième, c'est un plaisir magnifique de lecture pour les gens qui aiment la lecture. C'est le moment de faire une pause musicale.
Thank you.
pas beaucoup alors qu'ils ont 20 ans de carrière et qu'ils écument les festivals de jazz et les scènes à l'étranger. Et ils sont dangereux. Je veux parler des fils Kanouch. Je vous ai fait écouter Si For Me et vous êtes bien sur Radio G à écouter Entre les pages. Aujourd'hui, je reçois Thierry Froger pour son roman Rose à la mer. Le quatrième volume est quand même plus mystérieux.
Il est moins référencé. Il n'y a pas la dimension historique qu'il y avait dans les trois premiers. Dans le premier, donc, la Révolution française et le bicentenaire. Dans Les Nuits d'Ava, il y avait tout le rapport au cinéma. Et puis, c'était les photos d'Ava Gardner nue étaient un prétexte à traverser l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, avec Sinatra, avec Castro, avec Kennedy, etc.
C'est dans celui-là que Rose couche avec Jean-Luc Godard.
C'est dans Sauf qui peut la Révolution.
C'est dans Sauf qui peut la Révolution.
Oui, parce que dans Sauf qui peut la Révolution, Jean-Luc Godard, on lui passe la commande d'un film sur le bicentenaire de la Révolution. Voilà. Et dans Et pourtant ils existent, là c'est autour de l'assassin de Jaurès et d'un mystérieux anarchiste qui aurait assassiné l'assassin de Jaurès au début de la guerre d'Espagne. Donc il y avait toute une dimension historique. Et là, j'avais envie de quelque chose de plus léger aussi, de plus brumeux, c'est vrai, quand vous dites mystérieux, avec moins de références aussi. Donc il y a effectivement la référence à Epstein, et puis il y a cette évocation du film de Marcel Carné, et ça j'ai découvert en me promenant sur place, en me documentant. Donc c'est un film que Marcel Carné a voulu faire d'après un scénario de Prévert. Au départ, le film devait s'appeler L'île des enfants perdus, avec Arletty. C'est tiré du fait divers bien connu de l'évasion d'enfants du bagne pour enfants de Belle-Île. Et ça a été un film maudit. Il n'a pas pu se faire avant la guerre. Il y a eu la guerre. Il a retrouvé un producteur Carné après la guerre. Et ça s'est appelé La fleur de l'âge. Entre-temps, Arletty avait passé la guerre, comme on le sait, et avait vieilli quelque peu. Il y avait un casting extraordinaire. Donc Arletty, Anouk Aimée, Serge Reggiani, musique de Cosma, décor de Tronner. Et donc, il a commencé à être tourné en avril 1947. Et là, tout s'est enchaîné. Un peu comme moi avec mon projet de projection sur des fumées. Il a fait un temps épouvantable. Un chien dressé pendant un an est mort. Un figurant s'est noyé. Il y avait besoin d'un yacht. Et le pilote du yacht avait peur dès qu'il y avait un petit grain. Les pêcheurs se mettaient dans le champ de la caméra. Donc la production leur donnait des sous pour qu'ils partent. Donc ils étaient 10 le premier jour, 50 le second. Et au mois de juillet, la production a dit on arrête les frais. Et donc c'est devenu un film un peu maudit. Ceux qui ont vu les images parlent de quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas le vérifier. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque quelques années après, on ne sait pas trop pourquoi, Carné a organisé une projection privée pour François Mitterrand et a projeté les bobines et soi-disant les aurait perdues à l'issue de cette projection. Et depuis, pour un petit monde cinéphile, on recherche ces bobines. Mais ces bobines, si on les retrouvait maintenant, probablement qu'elles ne seraient pas exploitables, puisque c'était ce qu'on appelait des films flammes qui brûlaient. Et donc là, il y avait un rapport entre le feu, la fumée, etc. Et donc, dans le roman, j'imagine que Talva est chargée de retrouver ses bobines.
Est chargée de les retrouver. On laisse le suspense ouvert, parce qu'il faut laisser du suspense. Mais c'est un suspense comparé aux trois premiers romans qui... Alors moi, j'avais utilisé le mot qui cavalcadait beaucoup. On courait d'époque en époque, de personnage en personnage. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Tout ça se tenait parfaitement. Enfin, moi, c'est une forme littéraire que j'aime beaucoup. Et puis là, on entre dans quelque chose de très doux, lent, où il y a les deux termes qui viennent, c'est la mélancolie et la nostalgie. Enfin, ces deux émotions-là se rencontrent. Qu'est-ce que ça dit, le fait que au-delà des circonstances qui font que vous écrivez un roman et vous ne faites pas une installation. Donc, au-delà de ça, vous prenez un angle qui n'est pas l'angle dont on est familier dans vos romans. Qu'est-ce qui fait que c'est cette option-là qui est retenue? Parce que ça aurait pu cavalcader tout autant. Hein. Enfin,
Mais je pense qu'on écrit toujours aussi un livre contre le précédent. Enfin, c'est une banalité. Et puis je pense que chaque projet littéraire appelle une forme spécifique. Et j'avais pas du tout envie de me répéter non plus. C'est vrai que Sauf qu'il peut la révolution, avec Godard et Danton, c'est basé sur le montage, vraiment, sur le montage, le découpage, le collage. Les Nuits d'Ava, on est plutôt dans le fondu enchaîné, je pense. Et pourtant, il existe, il y a 30 narrateurs qui prennent en charge le récit. Là, on est plutôt dans ce qu'on appelle un roman choral ou polyphonique. Et là, je voulais autre chose, moins de personnages, moins de références, moins d'époques, des histoires plus individuelles qui renvoient moins à la grande histoire. Et je pense que c'est lié aussi peut-être au paysage de ces îles, entre brumes, nuages, écumes. Le fait que les films d'Epstein sont en noir et blanc et accordent une extrême importance aux éléments, au vent, à la pluie. Donc voilà, je pense que... Et puis il y a une forme peu à peu qui se mettent en place. Au début, je pensais écrire que la partie centrale, et puis après, il y a eu l'ajout de la première partie à Elbe, et puis la partie finale à Kalona, avec aussi des temps employés différents et des narrateurs différents, puisque la première partie, Elbe, est à la première personne, la deuxième partie, avec Rose et Talva, est à la troisième personne du singulier, et la dernière partie, c'est la deuxième personne, où c'est Florent Talva qui s'adresse à lui enfant. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui viennent en cours de route. Mais c'est vrai que je savais dès le début que je voulais un roman qui soit relativement court, avec peu d'action spectaculaire. Plutôt un cheminement intérieur pour les personnages, qui sont beaucoup moins nombreux aussi que dans les romans précédents.
Ben là, ça tourne autour de Rose et
Talva.
Et Talva, oui.
Oui, il y a quelques personnages secondaires qui sont plutôt des personnages.
Oui,
L'auteur de Polar, qui amène aussi un peu de légèreté, un peu d'humour, comme j'essaye de mettre dans les romans pour pas que ce soit plombant, quoi. Non plus cette atmosphère mélancolique, un peu.
Parce que vous avez publié aussi deux recueils de poésie. J'avais apporté le deuxième, là. Deux romans et autres essais. Et toutes les critiques qui ont été faites sur ces deux recueils de poésie, c'est justement le côté, la mélancolie, l'hypersensibilisé de votre poésie que moi j'ai retrouvé dans ce Rose à la mer.
Oui, alors un poème ne s'écrit pas comme un roman, c'est pas au même moment, c'est pas le même temps, c'est pas exactement le même engagement, mais il y a des va-et-vient entre les deux pratiques. Ça, c'est évident, avec aussi en filigrane dans tous mes livres, que ce soit les deux recueils de poésie ou les quatre romans, la présence fantomatique des images. Parce que je viens des images, et il y a toujours les images, et souvent des images fantômes, puisque finalement, dans Sauf qui peut la révolution, c'est l'histoire d'un scénario de Godard qui ne verra jamais le jour. Dans Les Nuits d'Ava, ce sont des photos perdues. Et pourtant, elles existent, les images sont sans doute moins présentes. Et là, on a les fumées d'Epstein et les bobines perdues de Carnet. Donc, il y a toujours comme ça des images fantômes ou des images perdues. Oui. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après coup. Oui.
C'est effectivement, pour moi, lecteur, c'est ce qui. C'était une des questions. C'est qu'est-ce qui fait que ces images, enfin, ce monde des images qui disparaissent, qui ne restent pas, qui ont disparu. Qu'est-ce que c'est cette obsession ou qu'on retrouve dans ces romans et dans vos recueils de poésie?
Oui, oui.
C'est attaché à quoi cette...
Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié, mais dans mon travail de plasticien, c'était aussi en gros les mêmes enjeux. C'est-à-dire que mon travail était basé sur des projections, et sur des phénomènes d'apparition et de disparition.
Alors, l'une d'entre elles, c'était projeter des images sur une boule de glace qui fond.
Oui, une boule de neige, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une forme de constance, ou d'obsession, ou de maladie. Mais,
obsession, arrêtons-nous au terme obsession.
Le premier recueil s'appelait « Retard légendaire de la photographie ». Donc, on est aussi avec mon grand-père était photographe à Chalonne-sur-Loire. Peut-être que c'est ça, et la photographie argentique, c'est le moment magique où l'image apparaît dans le fond du bac à révélateur. Et j'en parle, d'ailleurs, il y a un portrait un peu déguisé de mon grand-père dans Les Nuits d'Ava. Et je crois que dans mon travail littéraire, il y a maintenant l'idée de faire apparaître des images, mais par les moyens de l'écriture, par la langue. Et c'est un peu pour ça que j'avais arrêté un moment, enfin, j'ai peu à peu abandonné ma pratique de plasticien, parce que c'est très lourd, il y a beaucoup de techniques, il y a des coûts, et c'est tellement l'économie de moyens de l'écriture me séduit beaucoup. Et comment produire, faire des images, finalement, mais avec d'autres moyens. Et c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de passer d'un genre à l'autre assez naturellement. Le dernier recueil de poésie, vous en parliez, s'appelle « Deux romans et autres essais, poésie ». Et donc, il y a aussi, dans la poésie, la volonté de faire récit. Voilà, donc, il y a des allers-retours. Et dans les fictions, il y a des passages qu'on peut qualifier de prose poétique aussi. Donc, il y a des va-et-vient constants, je pense.
Alors, je parle de mélancolie vraiment présente dans Rose à la mer. Alors, par certaines références. Alors, moi, je pense... ça va parler à certains, à la référence à la chanson que chante Gilles Bocarne, « Je ne songeais pas à Rose », qui est une chanson assez ancienne, hein, mais Gilles Bocarne, on parle d'une période des chanteurs à barbe hirsute et à guitare, et c'est donc une nostalgie après 68, enfin ça parle d'une époque. Chaque chapitre de « Rose à la mer » est introduit par une épigraphe. Antonio Soler, Leonardo Padura, Fernando Pessoa, c'est pas les poètes les plus joyeux, c'est pas les auteurs les plus joyeux, c'est ceux qui travaillent.
Padura, il y a dans ses romans, il y a une belle vitalité, il y a une mélancolie cubaine, mais il y a une belle vitalité aussi.
Oui, mais moi je me souviens de certains textes, voilà qui voilà on est inscrit dans. Le terme, c'est mélancolie pour moi. Enfin, en tout cas, c'est l'émotion que j'ai éprouvée à la lecture de Rose à la mer. Sur cette question de la mélancolie aussi, il y a peut-être pas que de la mélancolie, mais du souvenir. Donc, il y a la maison de photographie de votre grand-père. Il y a le cinéma des premiers temps. Il y a la chanson des années 60-70. Donc, objectivement, rien qui n'est actuel, qui ne soit actuel. Hein. C'est, si on rajoute le regard totalement désabusé de Rose sur l'époque dans laquelle nous sommes, et l'illusion de jeunesse de Florent, qui semble ne pas comprendre que le temps a passé, moi je me demandais, en faisant comme ça une ligne à travers tous ces éléments, je me demandais si vous aimiez notre époque.
Je ne peux pas dire qu'elle m'enthousiasme follement. Et c'est vrai que ce roman a été écrit après l'épidémie, le fameux Nouveau Monde. D'ailleurs, le programme du gouvernement s'appelait Monde Nouveau. On voit ce qu'il a de le monde d'après, qui ressemble furieusement pire au monde d'avant. Je ne sais pas qui disait ça. C'est vrai qu'il y a quand même actuellement des lourdes menaces et que sans doute consciemment ou inconsciemment, je porte aussi. Là, on est quand même aujourd'hui dans une époque... que ce soit dans le monde, ici, qui est plus qu'inquiétante. Il y a un moment quand même d'individualisme forcené, revendiqué, de morcellement, d'impossibilité presque à ce que les gens différents puissent se parler. Enfin, tout ça me préoccupe, oui. Comme beaucoup de monde. Oui,
oui comme quelqu'un qui est sain d'esprit ne peut pas ne pas être préoccupé.
Ouais, et sans faire de transposition, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans un moment assez grave. Et pourtant, il existe. Le roman précédent, je parlais de la guerre d'Espagne. Et je me souviens souvent de cette phrase de Michel Léris, qui, en juin 1937, découvre dans l'atelier de Picasso Guernica. Et Léris écrit dans son journal le soir: Picasso vient de nous envoyer une lettre de deuil. Tout ce que nous aimions va mourir. Et ça, c'est en 37. Et je repense souvent à cette phrase, parce que à beaucoup de signes, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que nous aimions et qui nous rassemblaient, qui ne sont peut-être pas mortes encore tout à fait, mais qui sont en mauvaise santé.
Mmh. Alors, ce livre, Rose à la mer, il est dédicacé à la mémoire de Marie-Odile Dupé. C'était qui, Marie-Odile Dupé ?
Marie-Odile Dupé, c'était ma tante. C'était l'épouse de mon oncle, le frère de ma mère, l'un des fils du photographe que j'évoquais tout à l'heure. Et Marie-Odile, comme mon oncle, ont beaucoup compté pour moi. Et elle est décédée, effectivement, pendant que j'écrivais ce roman. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à dédier ce texte à sa mémoire. Oui.
Quittons un moment Thierry Froger pour écouter un peu de musique.
Yo, petit soldat, réveille-toi. T'es bien plus fort, t'es bien plus fort que tu crois. Yo, chacun son but, chacun sa vie, chacun sa lutte, à chacun son. Mais si tu l'as compris, l'ami, chacun sa lune, chacun son paradis, à chacun son monde idéal. Y en a qui veulent la liberté, malheureusement c'est pas au programme. Aïe, juste on marche, ça tire des balles. Sonnez l'alarme, y'a les petits qui débarquent. Y'aura pas de cinéma, pas de doublure, que des cascades. C'est réel et c'est bientôt la fin de la grande mascarade. Ça déboule boule, ça déboule grave. Comme des pirates à l'abordage. Quand le système fait naufrage, on revient tourner la page. Petit soldat, réveille-toi. Les laisse pas guider ton cerveau, les laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois. T'es bien plus fort, t'es bien plus balèze que tu crois. T'es bien plus rapide et solide comme un Apache. T'envoies du bois, t'envoies des bûches, t'envoies des barres. T'envoies tout ce qui passe. Y'a plus de chibane à balancer, tu leur as tout mis dans la face. Bref, petit soldat apprend vite. Il a l'esprit rebelle mais aussi l'esprit critique. Il a pas de prix Nobel et il fait pas de politique. Il a pas de chef, pas de stress, pas de gros meeting. Yo, le rendez-vous c'est dans la rue. D'un côté y'a le peuple et de l'autre les massues. Sens-tu la tension, les mauvaises vibrations. Ça monte en pression. Voilà la lispo, ça sent la lacrymo. Y'a des anciens et des minos. Ça tape normalito. Soldat, réveille-toi. Réveille-toi et ne traîne pas. Le système ne t'aime pas. Non, 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 non. Petit soldat, réveille-toi. Les laisse pas guider ton cerveau. Les laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois. Siempre hasta la victoria. Dándolo todo luchando con la minoría. Dándolo todo luchando como chocoraje.
Te fumo como un poro chocolate.
Toma, toma adoquines en tu cara. Derecha, izquierda. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere salvar la tierra? ¿Quién tiene armas y quién tiene piedras? Ça de boule boule, ça de boule grave. Comme des pirates à l'abordage. Partout c'est pareil, on attend l'étincelle. A cabra-dabra, on sort comme des insectes. Man, c'est pas des bégons qui nous collent. Voilà la lispo, ça sent la lacrymo. Y'a des anciens et des minos. Et ça tape normalito. Soldat, réveille-toi. Réveille-toi et ne traîne pas. Le système ne t'aime pas. Non, 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 non. Petit soldat, réveille-toi. Les laisse pas guider ton cerveau. Les laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois.
Thomas Hawke, l'hyper-productif musicien qui annonce déjà un nouvel album. Ce petit soldat s'inscrit bien dans l'air du temps. Vous écoutez Entre les pages, et ce n'est que sur Radio G qu'il est préférable d'écouter en DAB+. Rejoignons Thierry Froger. Moi, je vous ai déjà invité dans l'émission, et puis je me suis dit, on vient de le faire encore une fois, parcourir un peu ce que vous écrivez. Puis je me suis dit, il faut bien qu'on trouve un angle, une porte, une ouverture, peut-être pour compléter votre portrait. Et donc, je vous ai donné une contrainte, celle de venir avec quatre livres. Et ça va conclure, ça va être la dernière séquence de l'émission. Je vous ai demandé de choisir 4 livres de votre bibliothèque. Alors, vous m'avez renvoyé un message en disant « Oui, mais quel livre ?» Bon, avec un peu, je sentais une forme d'inquiétude, voire la suspicion d'un éventuel piège. Pas du tout. Simplement, c'est une carte blanche, en fait, en réalité, pour ouvrir, justement, peut-être donner un autre regard ou voir, comprendre un peu ce qui structure peut-être aussi votre écriture. Alors, vous êtes venu avec quel livre ?
Alors, il y a quatre livres. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « L'ancêtre », d'un auteur argentin qui s'appelle Juan José Saer, et que les éditions du Tripode, depuis plusieurs années, rééditent. Donc, ils vont, je pense, rééditer l'ensemble de son œuvre romanesque. Un autre livre...
On en dit deux mots, oui. Parce que c'est important. C'est pas n'importe quelle écriture.
Non, c'est une écriture qui m'a emporté d'emblée quand j'ai découvert cet auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est un ami écrivain qui m'en a parlé. Il faut lire ça. C'est,
oui,
et c'est vrai que j'ai beaucoup de... On le verra avec un autre des quatre livres. J'ai beaucoup d'intérêt pour la littérature sud-américaine. Enfin, hispanique en général et sud-américaine en particulier. Et le projet sur lequel je travaille actuellement se passera en partie en Amérique du Sud. Voilà. Et donc L'Ancêtre, c'est un court roman exigeant, assez dense, violent, qui raconte l'histoire d'un jeune marin espagnol au début du XVIe siècle qui est capturé par une tribu anthropophage. Voilà. Et c'est vu par ses yeux, et c'est d'une force assez inouïe. Et tous les amis à qui j'ai prêté ce livre, pour la plupart, sont sortis aussi, non pas indemnes, mais profondément marqués.
Oui, moi, j'ai lu ce livre. Quand j'ai vu ce livre sur la pile, moi, j'ai un souvenir de cette lecture. C'est un tout petit livre, hein, c'est un court roman, effectivement, mais en fait, il est d'une puissance, l'écriture est d'une puissance forte, et quand on suit ce personnage qui va tenter l'évasion, enfin, on sort sidéré de cette lecture-là. Enfin, moi, je suis sorti sidéré de cette lecture-là.
Oui, je peux lire la dernière phrase, par exemple.
Oui.
Ce qui arriva par la suite, je l'appelle année ou ma vie, rumeur de mer, de ville, battement de marée humaine, dont le courant, comme un fleuve archaïque qui roulerait l'attirail du visible, me déposa dans cette pièce blanche où, à la lueur de bougies déjà presque consumées, je suis en train de balbutier sur une rencontre de hasard entre et avec, assurément, les étoiles. C'est quand même, là, c'est une phrase. C'est quand même une prose assez remarquable, et c'est aussi remarquablement bien traduit par la regrettée Laure Bataillon, qui est une très grande traductrice de l'espagnol.
Oui, c'est une lecture hautement recommandable. Deuxième
livre, alors, c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi, je crois que j'en avais déjà parlé ici, c'est Pierre Michon.
Oui.
La Grande Beune, qui est quasiment son seul vraiment livre de fiction. C'est un auteur qui m'a longtemps empêché. D'une certaine manière, quand j'ai découvert, dans les premiers textes que j'écrivais, c'était du sous-Michon, c'était épouvantable. Il a fallu longtemps, finalement, pour que je trouve une voix qui était la mienne et qui n'était pas empruntée à d'autres auteurs, et à Michon en particulier. Et La Grande Beune, je trouve que c'est un très court roman, remarquable. Roman qui a maintenant une petite sœur, puisqu'il a fait paraître il y a 2 ans, je crois.
Oui.
La petite Beune, et ça a été réuni ensemble, ça s'appelle maintenant Les Deux Beunes. J'avoue que je préfère la grande Beune seule. Parce que la Grande Beune, c'est quoi ? C'est l'origine du monde, dans tous les sens du terme, à la fois le tableau de Courbet et aussi l'art de la préhistoire, le monde, un monde disparu, mais c'est aussi un roman du désir. C'est aussi du roman du désir extraordinaire. Et je trouve que la petite Beune, qui est le roman du désir réalisé, n'apporte rien. J'aimais le désir en suspens, la violence du désir en suspens qu'il y avait dans La Grande Beune. Voilà.
Entre les deux, il y a une forme, à la lecture du deuxième, il y a une forme de... Moi, j'ai éprouvé une forme de frustration. C'est-à-dire qu'on attend, en fait, on est en attente de quelque chose. De quoi, on ne sait pas, mais de quelque chose. Et puis en fait, on se dit, ah, ouais, mais ça ne va pas jusqu'où on aimerait que ça aille sans savoir où ça doit aller.
Tout à fait, oui. Ouais. J'avais mis, je crois, en exergue de Nuit d'Avare, une phrase de la Grande Bune qui était, je ne la retrouve pas, qui était « Seul m'emporte les apparitions
». Encore.
Alors,
autre proposition.
Alors, c'est un poète. Là, j'avais envie aussi de parler d'un poète. C'est un poète décédé il y a une quinzaine d'années maintenant, Mathieu Bénezet, qui n'est pas reconnu sans doute à sa juste place. Je trouve que c'est un poète assez... qui a une œuvre sur les... Il a commencé à écrire, à être publié dès 20 ans chez Gallimard, à la fin des années 60, jusqu'aux années 2010. Et là, j'ai pris, non pas un petit recueil de Bénezet, mais la réédition chez Flammarion, qui est aussi mon éditeur par ailleurs en poésie, de ses œuvres quasi complètes. Enfin, c'est un choix de... Donc ça fait 1400 pages, quasiment, de son œuvre, 1968-2010. Et c'est un poète qui me semble majeur, puisqu'il essaye de résoudre finalement cette contradiction dans laquelle sont tous les poètes actuellement. C'est comment concilier la recherche formelle et une forme de lyrisme aussi. Et ça, c'est extrêmement présent chez Bénezet, où il y a une poésie qui peut être parfois un peu difficile, expérimentale même, par la typographie, par les jeux de prosodie. Et en même temps, il y a une très grande sensibilité du lyrisme. On pourrait même presque qualifier le lyrisme de Bénezet de lyrisme déchiré. Il y a quelque chose comme ça. C'est un lyrisme mis en pièces par la modernité poétique. Et ça, je trouve ça très, très touchant. Et c'était aussi un grand homme de radio.
Oui.
Il a eu plusieurs émissions sur France Culture.
Oui, effectivement. Quatrième volume.
Un autre gros morceau, c'est Roberto Bolaño, l'auteur chilien, Les détectives sauvages, qui est vraiment le roman qui a permis à Bolaño, qui a mangé la vache enragée pendant toute sa carrière, d'avoir une reconnaissance publique. Et c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi, Roberto Bolaño. C'est sans doute un des auteurs actuellement qui a le plus d'influence dans la littérature mondiale. Il est à la fois poète, il a écrit des nouvelles et ses romans magistraux. Et j'ai choisi les détectives sauvages parce que c'est aussi un roman, c'est toujours le cas d'ailleurs chez Bolaño, qui est basé sur une enquête. Et Rose de la Mer était aussi une forme d'enquête, mais une enquête qui est un prétexte finalement. Comme chez Bolaño, où là, c'est une enquête sur une poète mexicaine des années 20, voilà, et qui nous fait traverser un peu l'histoire du Mexique. Il y a quelque chose de mélancolique et désespéré chez Bolaño, mais avec une joie de l'écriture qui est contagieuse, je trouve. Quand je dis Bolaño, j'ai envie d'écrire. après, c'est peut-être ce qu'on peut demander de mieux à un livre. Alors, je sais que certains passent à côté de Bolaño, parce que c'est aussi... c'était un fou de littérature, il avait une connaissance de la littérature, de la poésie française des années 70, extraordinaire, de la littérature classique hispanique, anglo-saxonne. Donc, il y a beaucoup de références aussi dans ces textes, mais il y a une vitesse. Et j'ai toujours l'impression que Bolaño décrit un monde qui est le nôtre et en même temps qui est un monde qui est propre à la littérature, une espèce de monde parallèle, comme ça. Et ça, je trouve ça très, très puissant. Et puis, donc, c'est un auteur chilien, même s'il a passé grande partie de sa vie au Mexique, où se déroulent la plupart de ses romans. Et puis en France, un petit peu, il est mort en Espagne à 50 ans, en 2003. Et là, actuellement, donc, je travaille sur un projet qui se déroule au Chili. Donc voilà pourquoi j'ai choisi aussi Roberto Bolaño.
Ces lectures-là, vous les avez faites quand ? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quand vous les avez faites ?
Je crois, oui. Alors, La Grande Beune, je crois que c'est à sa sortie, en 1997. J'étais étudiant, où je sortais, je finissais juste mes études aux Beaux-Arts. Bolaño, j'ai dû le découvrir il y a 5-6 ans, un petit peu plus. Mathieu Bénezet, je l'ai lu à partir de 20 ans. Voilà, il m'a accompagné depuis donc le début des années 90, où j'ai lu aussi ses recueils des années 80. Et puis l'ancêtre, il y a 2-3 ans, ou 3-4 ans, je crois, sur les conseils d'un ami.
Dans ces lectures, est-ce que vous pensez qu'elles sont constitutives de votre écriture ?
Ben, j'en ai un peu parlé tout à l'heure pour ce qui est de Pierre Michon. Je crois que j'ai beaucoup été contre lui à un moment.
Oui, mais donc elles sont constitutives de votre écriture.
Oui, donc pour Michon, c'est indéniable. Oui. Et même, je pense que ce que je fais n'a rien, absolument, oui. c'est pas comparable de toute façon, mais n'a rien à voir avec son projet à lui, puisque je suis vraiment dans ce rapport entre fiction, fiction et réalité, avec... il y a pas, il y a, enfin, lui, c'est des livres très, très courts, très souvent. L'ancêtre, je ne sais pas, c'est plus récent. Donc je ne sais pas s'il a la lecture de... Parce que j'ai lu ses autres livres aussi, de Juan José Saer a infusé. Pour la poésie, sans doute. Mathieu Bénezet, sans doute, dans ce que j'ai écrit, il y a sûrement des réminiscences de Bénezet, ici ou là. Et quant à Bolaño, je pense que... le personnage du détective dans Rose de la mer doit sans doute un peu à Roberto Bolaño et au détective sauvage. Oui.
Si on remonte dans le temps, est-ce que vous vous souvenez de vos lectures d'enfance ou de votre première lecture d'enfance ?
Non, quand j'étais enfant, je lisais des livres pour jeunesse. Oui. J'ai toujours lu, j'étais
oui,
abonné.
Oui, mais la lecture pour jeunesse, ce n'est pas une sous-lecture.
J'étais abonné à J'aime lire, je crois.
Voilà, oui. Ça donne une idée de votre âge.
Et puis, c'est ça. Et puis après... Non, je me souviens d'un choc de lecture, vraiment.
Oui.
Je devais avoir 12 ans. Et c'était Arthur Rimbaud.
Et, à 12 ans.
Ouais, et je lis Rimbaud, et là, il y a un truc qui m'échappe. Je ne comprends pas. Mais je trouve ça extraordinaire. Et c'est là que j'ai compris que la littérature, c'était aussi ce qu'on ne comprend pas. C'était ce qui résiste. Et... Il me dit, je comprenais pas vraiment, mais il y a quelque chose qui me touchait profondément, quoi, cette étrangeté, et je pense que ça a été un moment vraiment important pour moi. Je me souviens encore de ma chambre, dans quelle édition je lisais Arthur Rimbaud, et puis après j'ai continué à lire au collège, etc. assez vite, mais je pense que c'est la lecture de Rimbaud qui est peut-être la plus marquante. Comment on peut écrire comme ça, voilà.
Parce que votre écriture dans le roman, vous avez parlé tout à l'heure de lyrisme, je pense qu'elle recoupe un peu cette notion de lyrisme. On est dans une narration, mais avec une véritable ampleur, tout particulièrement d'ailleurs dans Rose à la mer, parce que l'ampleur de Rose à la mer... Elle est dans le développement des émotions, de la sensation. On est vraiment dans ce domaine-là.
C'est d'ailleurs le titre d'un poème de Rimbaud.
Exactement.
Sensation. Oui, non, je pense que il y a une.
C'est pas un poème qui commence par les soirs bleus d'été, j'irais.
Ouais, voilà.
Picoté par les blés.
Picoté par les blés. Ouais. Non, c'est vrai que je porte une grande attention au sens, aux sensations auditives, olfactives, à la vue, évidemment. Après, effectivement, il y a une forme de prose poétique à des moments, mais ce que j'essaie, c'est de jouer sur des différentes vitesses aussi. Un moment qui peut être un peu lent, puis tout d'un coup une ellipse pour accélérer les choses. Et puis, un peu de détachement et d'humour aussi à plusieurs reprises, parce que le personnage de Talva, par exemple, c'est un peu un perdant magnifique. Quoi.
Oui. Magnifique, je sais pas.
Magnifique, je ne sais pas, mais un perdant en tout cas.
Un perdant, c'est vrai.
Et c'est vrai que les personnages de perdants sont plus intéressants que les vainqueurs. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, donc un peu, introduire un peu de légèreté aussi et d'humour, et puis de mélanger divers registres.
Vous venez d'en parler, enfin vous en avez parlé à deux reprises. Vous travaillez sur un nouveau projet dont la géographie serait l'Amérique du Sud. Donc on a bien compris que vous y étiez sensible. Ça parlerait de quoi un roman comme ça ?
En général, on n'aime pas trop parler des choses qui sont.
Alors on n'en parle pas.
Mais je veux juste dire ce qui le relie au précédent.
Oui.
Rose à la mer, c'est que donc c'est des va-et-vient entre plusieurs époques, là, et entre la France et le Chili, et en particulier au Chili, une île, une île dans le Pacifique qui s'appelle la Isla Mocha, où je suis allé, voilà, qui était une île importante dans la mythologie des Indiens Mapuche. Voilà. C'était l'île des âmes.
On n'en dira pas plus.
Non.
On n'en dira pas plus. Mais moi, j'attends avec impatience. Je vous remercie, Thierry Frugy.
Merci à vous.
D'être venu jusqu'ici, jusqu'à Angers, jusqu'au studio. Moi, je recommande vraiment la lecture de ces quatre livres, mais je recommande tout particulièrement la lecture de Rose à la mer, qui est dont on ressort avec une véritable joie, même si la dernière partie, qui est très brève, est très rude. Très, très rude. Enfin, si je devais lire la dernière phrase, parce que la dernière phrase m'a marqué, la dernière phrase de Rose à la mer, « Tu voulais qu'on t'aime dans la nuit, tu voudrais tellement qu'on t'aime. » Et ça se conclut là-dessus, donc, et je pense que tout ce qui précède est vraiment important. Je vous remercie de cette visite et je vous souhaite une
Merci
bonne
encore.
Journée. Au revoir.
Au revoir.
Petite surprise imprévue, c'est un tout nouveau titre de Tilassine, Namiinus, fruit de son dernier séjour en Namibie. Merci encore à Thierry Frugy pour cette visite. Dans l'agenda des deux semaines à venir, vous rappelez demain, jeudi 4 décembre à 18h30, rencontre avec Clara Dupont-Monod pour son roman La Confrontation à la librairie Richer à Angers. Le samedi 6 décembre, à la bouquinerie d'Ingrandes-sur-Loire, rencontre avec Nicole Beau et Laurent Giraud-Conti, fils adoptif d'Anita Conti. Et puis le festival Angers BD, les 6 et 7 décembre prochains au Centre des Congrès à Angers. Au cours de l'émission, vous avez entendu les fils Canouche qui ont interprété Siformi, Tomahawk qui a chanté Petit Soldat et Tilassine qui a joué Namiinus. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 17 décembre à 17h. Les invités seront Françoise Roy et Étienne Davodeau pour leur album « Là où tu vas ». Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.